histoire particulière. Votre documentaire en deux épisodes de ce dimanche après-midi vous convie à un voyage au Nouveau-Mexique. Retour en 1947 sur les débris et traces des étranges humanoïdes retrouvés à Roswell. Un documentaire de Michel Pomaret et François Test. Aujourd'hui, ces dimanches, ils sont parmi nous. C'est la stricte vérité, monsieur le commissaire.
Les nombreuses rumeurs concernant les disques volants sont devenues réalité hier. Le bureau de renseignement du 509e groupe de bombardement de la 8e armée aérienne à la base aérienne militaire de Roswell a eu la chance d'entrer en possession d'un disque grâce à la coopération d'un fermier local et du bureau du shérif du comté de Chavez. L'objet volant a atterri sur un ranch près de Roswell la semaine dernière. Ne disposant pas du téléphone, le fermier a entreposé le disque en attendant de pouvoir prendre contact avec le shérif qui a informé à son tour le commandant Chase Marcel et le disque a été récupéré à la ferme. Il a été inspecté à la base aérienne militaire de Roswell puis a été remis par le commandant Marcel aux autorités hiérarchiques.
Gildas Bourdet,
oui.
C'est comme ça que ça a commencé.
C'est exactement, voilà, ça c'est le communiqué de presse du 8 juillet 1947. Qui a fait du bruit hein, à l'époque.
Et qui continue à faire du bruit.
Et qui fait encore du bruit aujourd'hui, oui, oui.
The truth about Roswell.
Roswell, la vérité est ailleurs.
Michel Pomaret, François Test.
De quelle façon débute un cauchemar? Pour David Vincent, architecte, de retour d'un voyage d'affaires, cela a commencé un mardi matin très tôt, vers 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé.
Continuez sur les collines. Alors, sur la gauche, on aura une porte, enfin une grille avec une chaîne ou une corde sur laquelle il faudra rentrer. Alors, en principe, là, on sera de nouveau sur une propriété privée, mais apparemment, c'est autorisé.
Soudain, comme la mer s'écartant devant l'étrave d'un navire, les nuages s'ouvrirent et un objet volant qui ne ressemblait à rien de ce que Fay connaissait tomba du ciel dans un gémissement. Les yeux écarquillés par la surprise, Fay batailla pour maîtriser Bandy, alors qu'un disque géant de couleur argent descendait droit vers eux. Ne sachant de quel côté fuir, Fay se tint immobile. Le disque volant n'avait pas d'hélice, seulement deux grandes ouvertures sombres de chaque côté. L'appareil semblait plus large que le terrain de foot de l'école. Avant qu'elle ait réussi à décider de quel côté fuir, le disque passa au-dessus d'elle dans un rugissement qui l'assourdit et effraya Bandy. Le cheval se cabra et désarçonna Fay. Alors que celle-ci volait dans les airs, elle se rendit compte que l'objet qu'elle avait pris pour un disque avait en réalité la forme d'une aile oblongue. Fay retomba au sol et roula sur elle-même pour éviter les piassements affolés de Bandy. Elle releva la tête juste à temps pour voir l'aile argentée percuter le sol à 400 mètres de là et projeter dans le ciel un nuage de poussière, alors qu'elle rebondissait et glissait jusqu'à s'immobiliser.
Vincent Basset, vous êtes à Aix-en-Provence, c'est à quelques milliers de kilomètres de Roswell. Comment est-ce que vous vous retrouvez à traduire le manuscrit « La conspiration de Roswell » de Boyd Morrison? Qui est Boyd Morrison?
Boyd Morrison est un auteur américain qui vit à Seattle, scientifique de formation, et c'est un ingénieur qui a travaillé pour différentes grandes sociétés, notamment la NASA, pendant quelques années, avant de céder à sa passion pour l'écriture de thrillers et se lancer à plein temps comme écrivain dans les années 2000.
Quelle est l'intrigue de ce roman, La conspiration de Roswell?
Le mystère de Roswell est le point de départ du roman, puisque le héros du roman, Tyler Locke, est engagé par une dame âgée, Feturia, qui a assisté dans son enfance au crash de Roswell, puisqu'elle habitait là-bas dans un ranch, et cherche, maintenant qu'elle est âgée, à comprendre exactement ce qui s'est passé. Le mystère de Roswell sert de point de départ à un complot ourdi par d'anciens agents des services russes qui cherchent à frapper les États-Unis et qui ont besoin, par le biais de l'affaire de Roswell, de retrouver ce mystérieux métal, le xénobium, qui devrait leur permettre de monter une opération terroriste.
Resituons le décor.
Alors, Roswell, c'est une petite ville un peu perdue au fond du Nouveau-Mexique, près des montagnes rocheuses. Le Nouveau-Mexique, c'est juste au nord du Mexique, hein, en l'occurrence. C'est un coin un peu perdu. Et c'était l'endroit parfait pour y stationner les fameux bombardiers B-29, les bombardiers atomiques, comme on dit, qui avaient eu leur heure de gloire en bombardant le Japon en 1945.
Donc le 6 et 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki.
Hiroshima et Nagasaki. Et ensuite, en 1946, ils avaient fait les expériences sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Donc c'était vraiment c'était le top de l'armée de l'air américaine, hein, la base des bombardiers de Roswell. Alors, ce qu'il faut rajouter tout de suite, c'est que le soir même, au quartier général de la région aérienne, à Fort Worth, au Texas, il y a eu un démenti par le général Ramey, qui a convoqué la presse et qui leur a montré des débris de ballons météo avec une cible radar complètement abîmée, et qui leur a dit, ils se sont trompés, les gars de Roswell, c'est ça qu'ils ont pris pour une soucoupe volante. Et alors, ça a enterré l'histoire pour 30 ans, en fait, hein, carrément.
Elle est apparue de ce côté. Dans un espace qui allait d'ici à là et couvrait toute cette surface.
On dirait que depuis au moins 100 ans, personne n'est venu ici.
Tenter de passer par là.
Je te dis que je l'ai vu.
Ça paraît la bonne direction, en tout cas.
Très bien, David.
Gildas Bourdet, quand est-ce que vous faites, vous, le voyage pour la première fois à Roswell?
Et je suis donc allé enquêter sur place en juillet 95. C'était la première année où on faisait une grande fête à Roswell. Et puis ça a continué chaque année depuis.
Qui vous voyez et qu'est-ce que vous cherchez quand vous enquêtez?
Eh bien, j'ai surtout rencontré un personnage qui était devenu le directeur du musée de Roswell, qui s'appelait Walter Haut, et qui était à l'époque, en 1947, le lieutenant Walter Haut, qui avait été chargé de diffuser le communiqué de presse que je viens de lire sur le crash de Roswell, et qui avait diffusé ce communiqué de presse aux deux radios et aux deux journaux locaux. Il m'a dit une chose qui me l'a répété deux jours de suite, c'est qu'il y avait une discipline très sévère sur cette base, et que jamais le colonel Blanchard, qui dirigeait la base, n'aurait osé faire de lui tout seul un tel communiqué de presse, qui était une véritable bombe à l'époque. Donc il avait eu des ordres de le faire. C'est une histoire très bizarre. Vous voyez, tout de suite, on est dans une histoire très complexe.
On est effectivement dans une histoire très complexe. Quelqu'un fait un communiqué de presse et mentionne ce terme qui fait encore du bruit aujourd'hui, 70 ans après, disque volant.
Oui.
Le soir même, on dit... ballon.
Oui.
Donc, est-ce que c'est pas une erreur d'appréciation d'avoir écrit disque volant et c'est tout?
Non, c'est pas tout.
Croyez vos soucoupes volantes.
Pourquoi pas, le fait est troublant.
Ce serait la preuve évidente qu'il existe ailleurs des vivants.
Comment sont-ils, ces astronautes?
En quelle matière, petits ou grands?
Ont-ils deux têtes, une jambe, pas de côte?
Sont-ils plats, carrés, transparents? Qu'on se le dise, il y a du monde ailleurs que chez nous, les terriens. Du monde qui voyage à la ronde, qui s'intéresse à notre map-monde et qui rôde autour mine de rien.
Fabrice Canepa, vous êtes l'auteur de Alien, 70 ans de culture et de contre-culture aux éditions Tana. Ce que vous montrez, ce qui n'apparaît dans aucun livre sur Roswell, Fabrice Canepa, c'est que dès 1946, il se passe des choses dans le monde, ailleurs. Pas du tout aux États-Unis. Il y a des manifestations dans le ciel. Où ça?
En 46, ce qui est très angoissant pour tout le monde d'ailleurs, c'est qu'il y a des fusées fantômes qui volent au-dessus des pays de Scandinave. Un certain nombre de phénomènes aériens non expliqués, avec des retombées parfois sur la surface de la Terre, de fusées fantômes, alors qui prennent des formes différentes. Hein. Il y en a qui ressemblent effectivement vraiment à des fusées, il y en a d'autres qui ressemblent juste à des boules de lumière. Il y a différents phénomènes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va évidemment beaucoup inquiété à la fois les Scandinaves, on s'en doute, mais même les Américains, parce que la grande angoisse, c'est que les Russes aient mis la main sur les stocks d'armes secrets, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il y a peut-être des stocks d'armes secrets des Allemands qui ont été constitués pendant la Seconde Guerre.
Entre la page 104 et 105, vous donnez, vous le romancier Yann Quérot, l'explication de Roswell. Lecture.
Ça a démarré en mars 1943. Des échos bizarres dans le ciel. L'affaire Roswell a démarré en 1947, l'interrompit Hélène. Effectivement, les observations par les civils ont débuté en juillet 1947. Mais l'armée avait repéré des choses plus de 4 ans auparavant. On était d'autant plus vigilants que c'était le démarrage du projet Manhattan. Ai-je besoin de vous faire un dessin ? Ils surveillaient la fabrication de notre première bombe atomique ? Très vraisemblablement. Le centre de recherche était au Nouveau-Mexique, à Los Alamos, à 200 miles de Roswell. À l'époque, on a cru qu'il s'agissait des Japonais ou des Russes. Cependant, les échos ne se sont jamais approchés suffisamment, ou n'ont pas duré assez, pour qu'on puisse identifier leur nature. Une tache sur un écran radar pendant quelques secondes, un éclair lumineux filant à toute vitesse, aperçu par des pilotes de chasse. Je peux vous dire que les gars avaient la trouille. Après Hiroshima, ça s'est arrêté, pendant un an et demi, plus rien. Et puis ça a recommencé. La même chose jusqu'à cette nuit de juillet 1947. La soucoupe, dit Hélène Blum. Pas une soucoupe, deux. Elles étaient apparues au nord d'Alamogordo, au-dessus des Wild Sands, là où avaient eu lieu les expériences du projet Manhattan. Deux Curtis P-47 les ont prises en chasse. D'après les rapports, elles se comportaient bizarrement. On aurait dit qu'une cherchait à attraper l'autre. Et puis, bang, une a complètement explosé tandis que la deuxième se crachait au sol. Et vous l'avez retrouvée, fit Grant incrédule, effectivement, avec 4 corps humanoïdes à bord.
Yann Quérot, vous êtes né où ?
Alors, je suis né en France, mais j'ai passé une partie de mon enfance justement à Alamogordo, à côté des Wild Sands, par est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est le destin ? En tout cas, c'est vrai que mon père a été travailler sur une base américaine, la base d'Holoman, qui existe toujours, à côté des Wild Sands, donc pour faire des essais d'avions. C'était à l'époque donc de la guerre du Vietnam, et les Américains louaient leur base, qui était un peu désertée parce que leurs avions étaient partis en Asie, pour des sociétés européennes qui voulaient faire des tests sur des avions.
Donc, est-ce que votre père travaillait pour des projets top secrets ?
Alors, mon père ne travaillait pas pour des projets top secrets, il travaillait sur la mise au point des mirages, mais il m'a raconté avoir aperçu à certains moments des choses étranges, et notamment une fois, il m'a dit qu'il a aperçu un appareil qui ressemblait à un papillon. C'était le flash il savait pas, donc en passant à côté d'un hangar, il savait pas ce que ça pouvait être. Alors, est-ce que c'était l'ancêtre des avions furtifs ou est-ce que c'était autre chose? On est toujours sur le fil de rasoir entre du plausible et puis des choses qui sont peut-être plus étonnantes.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la zone 51? Quels sont ces projets payés par une caisse noire?
Nous ne faisons que les piloter, ces appareils. On ne sait pas comment ils marchent. On sait juste qu'ils sont fabriqués dans l'Utah.
Si vous ne savez rien, pourquoi m'avoir appelé ?
Mais j'ai lu votre dossier. Vous cherchez des soucoupes volantes depuis des années. Est-ce que les extraterrestres existent, agent Mulder ?
Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la complexité des solutions proposées pour expliquer le mystère de Roswell au-delà des dires des autorités.
Les explications que vous avez retenues, c'est lesquelles ?
Il y a l'explication de l'armée américaine qu'il s'agirait du crash d'un ballon sonde qui était utilisé pour surveiller les essais nucléaires russes à l'époque, donc en 1947.
Il faut savoir ce que c'était que ces ballons météo.
Le projet Mogul.
Voilà. Alors, il y a eu en 1947, il y avait un ballon météo. Et puis en 1994-95, l'armée de l'air s'est réveillée, poussée par une enquête du Congrès qui lui demandait des explications, d'un député du Nouveau-Mexique, et qui s'est mise à raconter que, ah non, c'était pas un simple ballon, c'était un train de ballon très compliqué, le train de ballon mongol, qui était très secret parce qu'il fallait, on voulait envoyer dans la haute atmosphère des instruments pour essayer de repérer les futures explosions atomiques soviétiques. Ça a complètement foiré, ça marchait pas du tout, ils ont vite abandonné ce projet.
Mais c'était un projet secret.
Oui, c'était un projet secret.
En 47, on n'était pas censé le connaître et en parler.
Oui, exact.
Donc, on était obligé de camoufler ça.
Alors ça, c'est la théorie des sceptiques et du Pentagone.
Il y a même eu, assez récemment, c'est d'ailleurs une piste qui est explorée dans le roman, une théorie, alors là, peut-être encore plus farfelue, si on peut dire, suppose que le crash de Roswell était en fait un projet secret ourdi par Staline afin de déstabiliser les États-Unis et que c'était un chasseur à réaction récupéré par l'armée rouge dans les laboratoires nazis qui avait été envoyé pour se poser sur les États-Unis avec à son bord des pilotes qui auraient été contrefait pour ressembler à des extraterrestres plutôt qu'à des hommes, et le tout afin de créer un mouvement de panique chez l'ennemi.
Quand j'ai vu cette soucoupe, j'ai eu l'impression d'avoir été coupé de tout le reste, morceau par morceau. Était-ce pareil pour votre mari ?
Oui. Oui, exactement pareil. Exactement.
Oui. Ce qui lui est arrivé n'était peut-être pas une crise cardiaque, peut-être a-t-il été victime d'un coup prémédité.
Mais si ce que vous dites est juste, alors la même chose pourrait vous arriver à vous.
Non. Non, je l'ai déjà trop crié sur les toits et...
Pourquoi est-ce que 1947-1978, on ne parle plus de cette affaire Roswell pendant 30 ans ? Qu'est-ce qui relance l'affaire Roswell en 1978 ?
Alors, en 1978, l'affaire a été relancée presque par hasard par un autre enquêteur, encore qui s'appelle Stanton Friedman, que je connais bien, aussi que j'ai rencontré de nombreuses fois. Il faisait des tournées de conférences aux États-Unis sur les ovnis. C'était un très bon enquêteur et... Il se trouvait en Louisiane, il passait à la radio et le directeur de la radio lui a dit « Ah, mais vous devriez rencontrer mon ami Jess Marcel, qui était à l'époque en retraite en Louisiane, car il a eu en main des morceaux de ces soucoupes dont vous parlez. » Et alors, Stanton Friedman ne voyait pas du tout de quoi il parlait. Il est complètement tombé des nues. Et puis, il a fini par appeler le Jess Marcel. Bon, il a commencé à raconter qu'en effet, il avait ramassé des débris très étranges en 1947 sur un terrain au nord de Roswell, à 120 km au nord de Roswell, et que c'était des débris tout à fait étonnants. Et ça a commencé comme ça.
Description des débris.
L'un des principaux débris les plus intéressants, c'était peut-être des feuilles d'aspect métallique très légères, mais très très solides, très résistantes, et on pouvait les plier, les chiffonner, mais elles reprenaient leur forme. C'était des matériaux à mémoire de forme. Ça, c'est très très curieux. C'était des choses comme ça, il y en avait d'autres. Il y avait des filaments, il y avait des morceaux qui ressemblaient à de la bakélite, mais qui n'en étaient pas. Enfin, c'était plein de choses très bizarres.
Yann Quérault, le fil du rasoir, vous l'avez senti passer aussi un jour. Petit enfant, vous étiez dans votre chambre. Racontez-moi ce qui vous est arrivé.
Alors, c'est quasiment mon premier souvenir. Donc, j'étais à la Mogordo, donc dans ma chambre, et j'ai brusquement eu l'impression, comme on a parfois, que j'étais observé. et c'était de nuit, et je me suis levé vers la fenêtre, et là, j'ai aperçu un visage non humain qui me regardait. C'était ovoïde, c'était des petits yeux.
Combien ?
Deux. Dans un visage très très pâle, mais voilà, c'est ovoïde, mais je saurais pas en dire plus.
Et là, un envahisseur arrive. Alors Léo Ponge, vous arrivez d'un tournage, qu'est-ce que vous venez de tourner aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a tourné des scènes pour un long métrage qui va s'appeler Jessica Forever.
Et alors le titre du documentaire sur Roswell, c'est Roswell Forever ?
Non, ce sera La tête dans les étoiles. Voilà.
Et donc vous avez accompagné Yann Quéraud l'année dernière.
Exactement.
Sur le site.
Ouais.
Et vous allez nous montrer ce fameux rush où tous les deux, vous vous êtes perdus dans le désert.
Exactement.
J'ai vu cette soucoupe. C'est la stricte vérité. Sur le coup, j'ai été ébranlé moi aussi.
Vous êtes resté au volant parce que sans interruption au cours des dernières 24 heures. Je vous propose de laisser votre voiture ici, M. Landers, ou un de mes hommes vous conduira chez vous.
Je n'irai nulle part avant que vous ayez fait quelque chose. Vous aurez besoin de ces notes pour retrouver
la soupe. Monsieur, allons, il est 6 heures du matin, nous sommes très fatigués.
Arrêtez, voulez-vous de vous moquer de moi? J'exige que vous fassiez quelque chose.
Donc voilà, grand désert, à perte de vue, on est dans les ranchs. On a encore la route où les camions passent, et petit à petit on va s'enfoncer sur les petits chemins, sur les petites routes, avec toujours la carte toujours prête sur le pare-brise, on avait le GPS aussi, à la recherche donc de ces fameuses... de cet endroit en tout cas, de ce crash attribué.
Alors sur la gauche, on aura une porte, enfin une grille avec une chaîne ou une corde sur laquelle il faudra rentrer.
Ça paraît la bonne direction en tout cas.
Oui, ça nous a pris, je pense, bien 3-4 heures presque pour arriver. Voilà, les cow-boys modernes.
Votre fille ?
Effectivement.
Son prénom ?
Nora.
Nora, la réaction de Nora, on va dire enfant de Roswell, petite fille de Roswell, face à la quête de son père, accompagnée par Léo.
Ah bah celle-là.
Elle vous regarde avec quels yeux, elle ?
A beaucoup ému, parce que c'est vrai que, en plus, c'est des choses, bon, elle sait que je suis écrivain de science-fiction, entre autres, mais pour elle, c'était que de l'imaginaire. Et là, quelque part, c'était des pages, donc elle avait aussi entendu mes parents parler un peu de cette époque américaine, mais c'était flou, c'était quelques photos. Et là, elle rentrait à la fois dans mon histoire et dans l'histoire de ses grands-parents et dans mon imaginaire, parce que il y avait en même temps ces télescopages avec entre ma vie, le roman et puis ce qu'on découvrait et ce mystère autour de Roswell.
Mais est-ce que c'est du tourisme terrestre ou du tourisme extraterrestre ?
Ah ben en tout cas c'est du tourisme dans l'esprit.
Et après la voiture, la marche.
Alors, elle a abandonné la voiture à l'endroit où il y avait les bonnes coordonnées, enfin les coordonnées du GPS qui s'étaient avérées fausses. Et voilà, et on cherchait là, au milieu de nulle part.
Donc la stèle.
La fameuse stèle.
L'inscription.
L'inscription.
L'émotion.
En juillet de l'année 1947, un vaisseau d'une origine inconnue a éparpillé des débris sur ce site. Des témoins ont rapporté qu'il s'agissait de matériaux de nature non terrestre. En septembre de l'année 2002, la chaîne Science Feed de science-fiction a amené des savants de l'Université du Nouveau-Mexique pour faire des recherches, pour creuser dans le sol à la recherche de preuves de cette nuit au triste destin.
Oui, c'est un moment important. Donc il y a cette cette stèle-là, bon, ces gens qui ont fait des recherches, alors on, voilà, nous on vient 70 ans après, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On ne sait pas. Ce qui est sûr et certain a priori, c'est qu'il y a eu un crash. De quoi, voilà, toute la question est là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez, ouais, assez fort, assez émouvant d'être là, de se dire que voilà, il s'est peut-être passé quelque chose ici qui est, je sais pas, hyper important pour l'humanité. Mais en même temps, tout cela reste très vague. Et puis ce paysage, voilà, ce désert, ces montagnes derrière, il y a, s'il n'y avait pas eu ce crash-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est déclenché derrière. Donc, quelque part, on est quand même sur, ouais, sur une date précise et à un endroit précis et qui a changé, en tout cas, beaucoup de choses.
'Quoi sert Roswell ?
Ou la question piège. Je vais lancer la bande-annonce. Alors ça, c'est quelques images des White Sands, qui est un paysage. Voilà, on dirait qu'on est sur une autre planète.
La Lune ?
Mais pourquoi pas ? Et là, c'est Nora qui chante, qui a écrit une chanson.
Black night sees their flies, flashing lights, no doubt, they're here, no doubt. They have come from the stars. They have come from the stars,
they have come afar. Donc, traduction par le père, des paroles de la fille.
Donc, ils sont venus des étoiles, ils sont venus de loin. Et donc, c'est une chanson que Nora, ma fille, a composée. À la fois les textes et la musique sur place. Ça l'a inspirée, puisqu'elle est. Elle est musicienne et donc elle a chanté ça là-bas.
Yann Quéraud, message extraterrestre, page 45 de votre roman « L'avenir ne sera plus ce qu'il était ».
Habitants de la Terre, n'ayez pas peur. Nous venons en paix. Nous vous surveillons depuis plusieurs millénaires. Nos observations scientifiques et philosophiques nous indiquent que votre mode de développement vous conduit aujourd'hui à une destruction irréversible de la vie sur votre planète. Nous venons vous aider.
Ça, c'est votre roman, ça, c'est votre interprétation, c'est votre invention, votre imaginaire. Est-ce que ce type de message, vous y croyez ?
Un peu. J'aurais même tendance à dire que j'ai aussi écrit le roman pour les extraterrestres, pour leur envoyer un message en leur disant, s'ils existent, bien sûr, sinon ça tombera dans l'eau, mais s'ils existent, en disant qu'on a vraiment du mal à se débrouiller. Et que même si le fait d'arriver sera compliqué à gérer pour les humains, on n'est pas du tout sûr de pouvoir s'en sortir si on n'a pas une aide extérieure.
Donc ils sont les bienvenus.
Donc pour moi, ils sont les bienvenus.
Attention derrière, prêtez l'oreille, concentrez-vous, écoutez-moi. Je m'appelle Solar, je viens du ciel, de la galaxie 53. Ma planète est très loin d'ici, à des milliards d'années-lumière. J'ai traversé la longue nuit pour arriver sur votre terre. Nos pères avaient déjà fait le voyage intergalactique il y a longtemps, dans le passé, au tout début de l'ère cosmique.
Thank you.
Bienvenue, 7 ans après Roswell, en 1954, dans le nord de la France.
Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius Deville, de l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses deux passagers. Alors, M. Deville.
Alors, j'ai entendu mon chien qui criait, pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. De ce qui s'est passé, j'ai eu deux hommes, je vous dis, deux êtres plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre.
Ça c'est quoi ça?
Ça c'est la tête, ça. Et puis ça, vous voyez, c'est là qu'ils marchent, là, comme je les vois, là, tous les deux.
Et ils n'avaient pas de bras?
Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras, vous savez. Je vois les jambes parce que je les vois marcher.
Ils couraient, ils marchaient?
Non, ils marchaient. Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil.
Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien?
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8.
Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil. Qu'est-ce que c'est? Moi, je
ne sais
rien.
Ah ça, écoutez, ça je pourrais rien vous dire. Hein.
Et voilà un martien là, non?
Ah non, non, ça c'est mon fils, ça, monsieur.
Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva.
10 septembre 1954, dans le nord de la France, un dénommé Marius De Wilde est témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante et sortent deux occupants extraterrestres. À l'époque, Jean-Paul Agut, le GEPAN, donc le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, n'existe pas. Est-ce que vous avez trouvé, vous qui dirigez le GEPAN, des traces écrites, des témoins?
Nous n'avons pas au GEPAN les pièces essentielles qui nous permettent de travailler, qui sont l'enregistrement du témoignage. Le GEPAN a été créé en 1977. Nous avons récupéré beaucoup d'éléments des gendarmeries, de toutes les déclarations qu'il y avait eu avant, mais cela n'avait probablement pas été enregistré de manière homogène sur toute la France. Il y a des régions pour lesquelles nous n'avons pas les PV de la gendarmerie. Donc ce qui est essentiel pour le GEPAN, c'est de travailler à la source. Alors pour ce cas, effectivement, en tant que responsable du GEPAN, je ne peux que vous dire ce que l'on sait en allant sur Wikipédia quasiment.
Ces soucoupes qui volent dans l'espace gardent jalouses leurs secrets. Elles s'en vont sans laisser de traces, mais qu'ont-ils vu ces gens discrets?
Pierre Lecomte, vous êtes enquêteur pour le GEPAN depuis une dizaine d'années, dans la région de Rennes. Et dans ces 10 ans, vous avez sélectionné un cas qui vous a marqué.
Il s'agit de deux gendarmes. Ils ont été très perturbés par une observation qu'ils ont pu faire lors d'une ronde de nuit dans une zone industrielle alors qu'ils étaient en patrouille tout à fait ordinaire. Ça s'est passé en juin 2014 à 23h07. Alors là, d'emblée, il faut dire que l'horaire pour nous est très important parce que ça nous permet de confirmer s'il n'y a pas de confusion possible avec d'autres événements astronomiques, météorologiques, etc., qui auraient pu intervenir sur le lieu en question. Alors je vais vous dire ces mots à lui, en fait. Je vais reprendre ces mots à lui. Il fait nuit, les conditions météorologiques sont bonnes, le ciel est étoilé, le croissant de lune ne se trouve pas dans notre champ visuel, le vent est faible, il n'y a pas d'orage ni de pluie. Soudain, depuis l'habitacle, à travers le pare-brise, nous observons, alors le « nous » c'est son collègue et lui, dans le ciel au-dessus de notre véhicule, une masse sombre stationnaire à environ 1000 mètres d'altitude. Sous celle-ci se trouvent deux lumières de petite taille, de faible intensité, non éblouissantes et non orientées dans notre direction. Elles sont dirigées vers le sol, mais ne forment pas de faisceaux ou de rayons. Elles sont fixes, elles n'ont aucun mouvement. Brusquement, après moins de 2 secondes d'immobilité, la masse s'est déplacée vers l'est à une vitesse vertigineuse, ce sont ces mots, une allure absolument stupéfiante. Sa trajectoire était linéaire, avec une courbe légèrement descendante à l'horizon. Il n'y a pas eu de dispersion des points lumineux, ni de fragmentation. Le pan a ensuite disparu de ma vue, comme s'il s'était évanoui dans la nature, en un millième de seconde.
Le PAN, c'est le phénomène aéronautique non identifié.
Voilà, oui, oui.
C'est le meilleur endroit pour voir le monde de la liberté et un ovni survoler le pays des songes. Je connais un gars qui en a vu 5 en une seule nuit. Il disait qu'il dansait dans le ciel. Vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est?
Jean-Paul Agut, le GEPAN, c'est qui, c'est quoi? C'est combien de personnes sous vos ordres?
Alors, le service GEPAN, c'est un service assez réduit hein, en termes de personnel. Nous sommes dimensionnés sur 3 personnes et demie du personnel CNES, nous sommes du CNES, et puis des contractants, consultants qui travaillent avec nous. Ça paraît peu, mais c'est pérenne. Pour progresser en connaissance, il faut enregistrer des témoignages sur le long terme. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons avec les gendarmes. Et puis, nous avons un réseau d'enquêteurs bénévoles qui nous permettent d'avoir un relais, un maillage géographique de la France, de façon à ce qu'on ne soit jamais à plus de 200 km d'un témoin, de façon à intervenir assez vite.
Combien d'enquêteurs sur toute la France?
Nous avons une vingtaine d'enquêteurs. Nous avons aussi des experts.
Ce qui est intéressant dans ce témoignage, Pierre Lecomte, c'est que d'habitude, ce sont les gendarmes qui sont appelés pour faire face aux témoins et qui recueillent leur premier témoignage. Là, le témoin est déjà le gendarme.
Oui, alors là, vous mettez l'accent. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce cas. J'aurais pu, j'en ai une quinzaine d'autres tout aussi intéressants. Mais là, j'ai voulu vous choisir 2 témoins qui ont l'habitude de conduire des entretiens.
Donc, à quel moment est-ce que vous faites face aux gendarmes?
Alors, à peu près, moi, j'y suis allé. Vous voyez, le phénomène est intervenu le 1er juin 2014 et j'y suis allé avec un collègue enquêteur le 30 juin, c'est-à-dire un mois après. On pose pas de questions au départ. On laisse le témoin s'exprimer de manière très, très libre. Et on lui demande de prendre son temps, de faire ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire d'essayer de se concentrer au maximum sur ce qu'il faisait. Juste, on lui demande d'abord de se remettre dans les conditions de l'observation pour essayer de bien se détacher de tout le contexte et de s'imprégner de l'observation. Ensuite, il nous en parle comme il veut. Ensuite, on lui demande de reprendre l'entretien à l'envers.
Donc c'est comme dans un film, marche avant, marche arrière.
Voilà. Et en plus, après, on lui pose quelques questions sur des détails. J'ai eu le petit plaisir personnel de demander à l'un des gendarmes s'il n'avait pas un état de conscience altéré. Et il m'a dit...
Par l'ingestion de substances prohibées?
Par exemple. Et là, non, ils étaient tout à fait clairs là-dessus. Il n'y avait aucune ingestion de quoi que ce soit.
Cette soucoupe volante a atterri il y a environ une heure. Elle est peut-être encore là. Allez au moins sur les lieux, je suis prêt à vous accompagner.
Non, je ne crois pas que ce soit utile.
On rentre dans la réponse le plus possible systématique à tout le monde, un peu guichet public, vis-à-vis de l'étrange ou l'insolite que quelqu'un peut rencontrer dans le ciel. Et on publie nos explications.
Ce guichet public dont vous parlez, Jean-Paul Agut au GEPAN, c'est 250 cas environ annuels qui vous arrivent. Et sur ces 250 cas, 10% sont classés sans réponse, non identifiés. Donc d'abord, pourquoi il n'y a pas de réponse claire, scientifique, rationnelle, on pourrait dire, pour ces 10% de cas?
La plupart du temps, ce qui fait la difficulté, l'étrangeté vue du témoin, c'est que c'est surajouter quelque chose. Il y a bien un avion, il y a bien un astre, mais dans des conditions... qui fait que ça devient étrange. L'avion peut avoir manqué d'aile, parce que l'éclairage au coucher du soleil, au lever du soleil, fait qu'on ne voit qu'une partie de l'avion. Une lune derrière des nuages, les trouées des nuages devant la lune laissent des figures rougeâtres qui bougent. Ça peut, dans certaines conditions, créer quelque chose que le témoin ne comprend pas. Et puis on peut même toucher des phénomènes de nature humaine, c'est-à-dire que l'étoile apparaît bougeante, parce que c'est des problèmes internes à la perception d'autocinétique. Donc notre travail, c'est de restituer, en fonction d'un témoignage, l'ensemble des phénomènes connus pour expliquer ce qui a été vu et l'étrangeté qui s'est rajoutée. Voilà. Alors, c'est vrai que dans 10% des cas, à l'échelle sur l'ensemble des 40 ans, 10% des cas, nous ne trouvons pas cet agencement de phénomènes connus, où nous trouvons un certain nombre de choses pour expliquer une partie de l'observation, et puis il reste ce qu'on appelle un résidu d'étrangeté, plus ou moins gros. Et dans ce cas-là, on préfère dire, voilà, dans l'état des connaissances aujourd'hui, nous n'avons pas, pour tel témoignage, un agencement de phénomènes connus qui permet d'expliquer le témoignage. Et nous versons dans ce qu'on appelle l'inexpliqué.
Ce maudit ovni, d'où qui vient d'où? Mais qu'est-ce qu'il fout, il part ici? Ce maudit ovni nous fait coucou. Elle met les bouts dans la nuit noire. Il arrive, Vincent l'avait bien dit, c'est pour notre pomme. Soucoupe volante, mystère boule de gomme. Ce maudit ovni, de qui se fout? Si c'est pas nous.
Le cas est publié, c'est-à-dire que j'ai fait cette enquête, j'ai fait le rapport d'enquête, j'ai suggéré à ma direction au GEPAN un classement parmi les catégories, on va dire un classement qui admet une sorte d'échelle dans le caractère d'étrangeté des phénomènes. J'ai proposé l'avant-dernier échelon du caractère d'étrangeté.
Bon, l'échelle de Richter, c'est de 1 à 7. L'échelle d'étrangeté, c'est de 1 à combien?
Non, c'est pas chiffré, c'est lettré. Les cas A sont des cas tout de suite identifiés, hein, pour lesquels l'enquêteur n'a peut-être même pas besoin de se déplacer.
Et les cas Z et X, Y,
alors ça va jusqu'à D. D1 et D2. Hein. Alors le D2, c'est le cas le non expliqué qui résiste à toutes les hypothèses et qui résiste aussi aux analyses des experts, parce que lorsque nous avons des dossiers un peu compliqués, nous avons des correspondants experts dans tous les domaines.
Donc comment vous avez classé ce phénomène?
Alors on l'a classé en D1, c'est-à-dire l'avant-dernier niveau. Pour une raison simple, c'est que le deuxième gendarme était en état de subordination par rapport au premier qui était son chef. On a la même chose par exemple avec un père de famille et son enfant. Par exemple, si les deux témoins avaient été distanciés géographiquement de 10 km l'un de l'autre sans se connaître, peut-être que ce cas aurait été classé des deux.
Donc quelle est l'explication, Pierre Lecomte?
Écoutez, si je l'avais, je vous la donnerais.
Donc c'est... oui, en 2017, vous n'avez pas l'explication.
Non, on pourrait dire ce que ça n'est pas. Hein. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas une sonde, c'est pas un ballon, c'est pas un drone. Compte tenu de la masse et de la sustentation dans le ciel avec deux petites lumières qui apparaissent, c'est pas une, c'est deux. Hein. Il y a deux choses qui nous alertent très profondément. C'est un, le fait que le phénomène soit entièrement silencieux. C'est le cas. Ce qui est choquant par rapport au volume et à la masse observée dans le ciel. Et l'autre, c'est quand on a des lumières, bien souvent, il n'y a ni halo, ni traînée.
Pierre Lecomte, vous avez comme correspondant l'armée.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas un avion russe qui faisait de l'espionnage sur une base militaire
bretonne?
Alors, à
chaque fois, nous traquons le prototype. Et chaque fois, cette question du prototype militaire en phase d'essai nous titille. Évidemment, on n'a pas la réponse de l'armée qui, pour toutes les raisons que l'on peut imaginer, n'a pas envie de le faire savoir. Après avoir eu ces entretiens avec eux, nous sommes retournés sur place sans vouloir donner une indication du lieu et tout en respectant l'anonymat de ces deux gendarmes. Je peux quand même dire qu'il y avait à 400 mètres de là une entreprise, on va dire, très sensible. Très sensible.
Tiens donc.
Oui, très sensible.
Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer la conférence du repas de ce soir. Nous avons le plaisir et la joie d'accueillir de nouveau ODH TV avec Gilles Thomas, donc le responsable.
Isor, quand et pourquoi est-ce que vous avez créé à Toulouse les repas ufologiques?
Alors, j'ai créé les repas ufologiques il y a 13 ans, à peu près, environ un peu plus de 13 ans maintenant. Pourquoi je les ai créés? Parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, comme je suis très curieuse et que j'étais très sollicitée par le propos, on va dire, de l'ufologie, et du coup, je l'ai fait. Voilà.
Et vous réunissez où?
Alors, on se réunit au Flunch à Jean Jaurès, tous les deuxièmes mercredis du mois en principe, sauf l'été.
Comment ça a commencé pour vous dans votre histoire personnalisante?
Bon, alors, on va dire que je suis tombée dedans parce que c'est ma maman et ma marraine qui ont vu des ovnis au Maroc. Alors, moi, j'étais pas du tout née à l'époque. Et elles sont plusieurs à l'avoir vu. Et elles m'ont raconté ça quand j'étais petite. Moi, j'habitais à la campagne. Et bon, pour moi, ma mère et ma marraine ont vu des ovnis. Bon, c'est naturel, en quelque sorte. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Et puis, on regarde le soir, on veille, on voit les étoiles, on voit des lumières dans la nuit. Et c'est quelque chose qui est toujours venu dans ma vie, en fait. J'ai quand même les pieds sur terre. Je ne suis pas une croyante au départ.
Est-ce qu'il faut être croyant ?
Non, je ne pense pas. Mais il y a des gens qui ont tendance à se laisser séduire par des choses extraordinaires. Et l'ufologie, ça peut en être. Hein. On peut raconter tout et n'importe quoi. Donc, justement, je dis faites attention. L'ufologie, gardez les pieds sur terre. C'est hyper important. Sinon, vous allez vite déboulonner, quoi. Mais bon, maintenant, c'est un secret de Polichinelle. On voit ça partout. On en parle partout. Il y a des films qui sont faits dessus. Voilà, maintenant, on a trouvé des exoplanètes. Tous les astrophysiciens sont d'accord de dire que la vie dans l'univers depuis les années 2000, c'est possible ailleurs. Donc, ça a pris un virage de l'ufologie. Maintenant, quand on parle d'ufologie, on n'est plus pris pour un doux rêveur, quoi. Ça devient beaucoup plus crédible, parce que c'est possible.
Mais la vie ailleurs, Isor, ça serait forcément une forme humanoïde ?
On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des vies qui sont construites comme nous, avec les mêmes briques que nous. Mais après, qui peut le dire ? En tout cas, d'après les témoignages de personnes qui ont eu affaire à des entités, je dis entités parce que ça englobe tout style de rencontre. Effectivement, il y a des formes qui sont complètement humanoïdes, d'autres qui le sont moins.
Qui êtes-vous ? Pouvez-vous me comprendre ? Pouvez-vous me voir ? J'aimais depuis la planète Terre. D'où émettez-vous ? Comment pouvons-nous communiquer ? Avec des mots ? Des nombres ? Des mathématiques ?
Fabrice Canepa, quelques titres de chapitres de votre somme, donc 70 ans de culture et de contre-culture. Entre fiction et réalité, du savoir à la croyance, hallucination et somatisation. Malédiction alien. Alors, première définition. Alien, c'est pas extraterrestre.
Non. Non, et c'est important de faire le distinguo parce que si on commence en 1947 par une histoire d'extraterrestre avec des vaisseaux venus d'ailleurs, dont la présence est attestée par des centaines de témoins, on va très vite se changer en une énigme. Et la solution à l'énigme pour un certain nombre d'ufologues, ce sera l'alien, c'est-à-dire des gens qui sont venus d'ailleurs, mais peut-être pas d'outre-espace. Et le problème va finalement s'élargir à d'autres possibilités.
Donc l'extraterrestre, il vient d'une autre planète et l'alien, il vient...
D'ailleurs, c'est l'autre. Peut-être est-ce juste une figure de nous-mêmes, d'ailleurs.
Le titre de ce documentaire, c'est Roswell, la vérité est ailleurs. Donc clin d'œil aux X-Files, mais la vérité, quelle vérité, Fabrice Canepa ?
Bah, c'est une question philosophique à ce niveau-là, mais disons que chacun effectivement a sa vérité sur le sujet. Ça, c'est très intéressant. Et peut-être ce qui est plus intéressant encore, c'est d'analyser les interstices entre ces différentes vérités, ces différentes réalités dans lesquelles chacun va projeter comme ça ses croyances, ses besoins, ses fantasmes, et d'étudier comment tout ça s'architecture.
Ailleurs, c'est l'imaginaire.
C'est par définition l'imaginaire, puisque personne ne peut dire que il y a des preuves absolument indéniable de l'existence et de la présence, surtout des extraterrestres parmi nous. D'où cette notion que, tôt ou tard, ça s'architecture sur la croyance en certains signes, certains faits, certains éléments qui tendraient à prouver que, ou qui tendraient à laisser penser le contraire. De la croyance, oui.
La silhouette avait une apparence humaine, avec deux jambes et deux bras. Mais elle possédait une tête bulbeuse argentée, deux fois plus volumineuse que celle d'un homme normal, avec deux yeux noirs complètement ronds et une large fente à l'endroit où la bouche aurait dû se trouver. Le visage grotesque était dépourvu de nez. Faye hurla de nouveau quand la créature escalada le montant de la fenêtre et retomba au sol près d'elle, la respiration lourde, avant de s'effondrer à genoux. Un fluide bleu s'échappait de son estomac. L'être porta ses mains à trois doigts jusqu'à sa tête et la tira en tous sens comme s'il essayait de se l'arracher. Après un moment, il renonça et se laissa retomber à quatre pattes.
Voilà, ils ont une tête assez grosse, des yeux assez gros aussi par rapport à leur... en proportion des nôtres, je dirais. Un petit cou. Et après, le corps est proportionné, oui, mais de petite taille.
Combien de doigts ?
Trois doigts. Et les autres, alors l'autre était plus avec une tête allongée, comme vous savez, comme une mante religieuse un peu, comme ça avec des yeux allongés. Je vous disais que j'ai vu d'autres êtres, oui, parce qu'il y a d'autres êtres qui étaient plutôt humanoïdes, là vraiment, assez grands. qui n'avait pas de cheveux, pas de sourcils, pas de système pileux, je dirais, qui était même un peu plutôt du style hermaphrodite, où je me suis trouvée plusieurs fois de les rencontrer, et ils n'avaient, enfin, ça n'avait aucun rapport avec ces êtres-là dont je viens de vous parler, avec ceux dont appellent les petits gris et les insectoïdes. Voilà.
Myriam Belmire, vous avez vécu une abduction, c'est-à-dire un enlèvement par des extraterrestres. Est-ce que vous pourriez me raconter la scène telle que vous vous en souvenez ?
Alors, ce n'est pas une abduction, mais plusieurs abductions que j'ai vécues. C'est 1987, au mois de décembre 1987, où j'étais partie me reposer près de Chamonix. J'avais été assez fatiguée. Je travaillais dans l'informatique avant, hein. Donc, je suis une passionnée de l'espace, de l'astronomie. J'ai fait 10 ans dans un club d'astronomes amateurs. Donc, j'étais partie me reposer au mois de décembre, début décembre 1987. Donc, je suis arrivée dans cet immeuble où il n'y avait personne. Et je m'installe dans l'appartement qui était assez grand, puisqu'il y avait au moins 4 pièces, et en duplex. Je regarde dans les pièces, je m'installe dans une pièce où il y a un Vélux. Donc, le Vélux, vous savez, qui s'ouvre dans la toiture. En me disant, ben, quand je serai couchée, je pourrai voir le ciel, je pourrai voir les étoiles de mon lit, c'est génial. Et j'essaye de m'endormir, donc il est, je sais pas, peut-être 11h30, minuit moins le quart par là. Et je sommeille, je suis à moitié. Donc j'éteins la lumière, j'entends un déclic après avoir éteint la lumière, mais ça me surprend, mais je me dis, tiens, je cherche pas plus que ça, j'essaye de m'endormir, mais je suis entre deux eaux. Et en fait, si vous voulez, je ferme les yeux, puis je sommeille. Et je vois, en ayant les yeux fermés, je me vois dans mon lit. Il y a une lumière qui est dans la chambre, alors que j'ai éteint. Et puis, je suis dans mon lit, paralysée, je ne peux pas bouger. J'essaie de m'étirer, de me lever, etc. Et je vois le Vélux qui est ouvert. Et... un espèce de câble qui descend du ciel, et je regarde ça, je me dis, mais ça vient d'où, ça? Et avec deux petits êtres qui flottent autour du câble. Normalement, il y a la pesanteur, donc je ne comprends pas pourquoi eux, ils flottent. Voilà, je me pose des questions, tout ça, en voyant la scène. Et le tuyau rentre en moi, donc dans la partie intime de ma personne, et ça me fait mal, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Au bout de tant d'heures, je me réveille, enfin j'ouvre les yeux et je regarde autour de moi. Il n'y a personne, le Vélux est fermé. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà.
Myriam Belmire, Sérofrance, ça veut dire contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. Vous l'avez créé quand? Et ça veut dire que vous avez créé cette association pour réunir autour de vous d'autres personnes qui avaient vécu la même chose?
J'ai bien réfléchi avant de la créer. Les statuts, trouvé les psychologues, parce que j'ai trouvé un psychologue qui a accepté, hypnothérapeute qui a accepté de nous rejoindre, Nicolas Dumont, qui était à l'INRES.
Nicolas Dumont, donc, qui est le vice-président de votre association, a écrit un long article où il explique tout ce que n'est pas une abduction, et je voudrais qu'on reprenne un peu ces termes. Alors, est-ce qu'une abduction, c'est une paralysie du sommeil ?
Les paralysies du sommeil au niveau thérapeutique existent, mais il y a différents phénomènes, je dirais, de type physiologique qui font dire par les psychologues hypnothérapeutes que c'est autre chose. L'abduction, c'est autre chose qu'une paralysie du sommeil.
Est-ce qu'une abduction, c'est une hallucination?
On pourrait penser ça au départ, mais comme je vous dis, il y a un certain nombre de faits qui sont, comment dire, perçus par la personne, par l'expérienceur, qui font que ces faits montrent dans la chair de la personne qu'elle a vécu un traumatisme. C'est ce qui montre qu'il y a une différence entre juste la paralysie du sommeil ou l'hallucination qui pourrait y avoir suite à la prise de quoi que ce soit, d'ailleurs. Hein. Et dans le cas là, on ne prend rien. Il n'y a pas de drogue ou de je ne sais quoi ou de boisson qui nous amène dans cet état-là. Absolument pas.
Bouffée délirante aiguë. Est-ce qu'une abduction, c'est une bouffée délirante aiguë?
Non. Non. Des fois, on pourrait dire, on voudrait bien que ça soit ça, mais non. Parce qu'on se pose la question, est-ce que quand l'expérience nous arrive, est-ce qu'on ne perd pas la raison? Parce qu'on se rappelle, ou on ne se rappelle pas tout de suite ce qui nous est arrivé. Parce que Nicolas Dumont l'explique bien en tant que psychologue. La conscience nous préserve, enfin nous comment dire, essaye de masquer des fois des traumatismes qui peuvent nous perturber dans notre vie de tous les jours, et donc on refoule ça, ça va dans le subconscient, et à ce moment-là, eh bien, on s'autorise un moment ou un autre à revenir sur l'événement pour pouvoir le déclarer, le dire, voilà.
Myriam Belmire, est-ce qu'une abduction, c'est un rêve, donc la production de votre inconscient ?
Un rêve, ça peut être au départ un rêve, mais qui est un rêve, ce qu'on appelle en état de conscience modifié. C'est-à-dire que vous êtes dans un état qui est différent du rêve habituel, où vous voyez, je dirais, la scène vraiment comme, vous aviez, comme si vous aviez les yeux ouverts, et vous la vivez réellement. Donc, c'est plus qu'un rêve, c'est vraiment un état de conscience modifié où vraiment la situation, il s'est déroulé quelque chose, il s'est passé vraiment quelque chose.
Dans la zone Grand Ouest, dans laquelle vous êtes enquêteur pour le Japon depuis une dizaine d'années, Pierre Lecomte, vous avez été témoin, vous avez reçu des gens qui ont été victimes d'abduction.
Alors j'en ai vu, effectivement, oui, j'en ai vu, oui.
Est-ce que ça, c'est marquant ?
Bien sûr, ça l'est pour les témoins. Maintenant, on n'est plus dans un phénomène aérien, si vous voulez.
Et là, on est vraiment dans l'entretien cognitif, quand même.
Oui. Mais il arrive, effectivement, j'ai rencontré des personnes qui se disent abductées, voilà, ravies.
Dans leur sommeil.
Ravies au sens du
ravissement.
Du ravissement.
Oui.
Vous avez des peurs qui viennent de très très loin. Vous êtes paralysé. Certains ne peuvent plus parler, ne peuvent plus déglutir. Vous êtes complètement terrorisé par un affect perceptif lorsqu'on a quelque chose que l'on ne comprend pas. Il y a un avant et un après. Elle ne voit plus. Alors si ce sont, vous voyez, ça va même très loin parce qu'ils peuvent avoir des croyances personnelles, des fois, une religion. Ça vient bousculer un peu tout ça. Nous avons bien sûr affaire aussi à des intervenants, des experts, des psychologues cliniciens qui nous expliquent que ce phénomène peut avoir une réponse dans notre cerveau.
Dans l'inconscient peut-être quand même.
Peut-être dans l'inconscient. Il ne faut pas non plus qu'on devienne pour ces gens-là des psychothérapeutes. Ce n'est pas notre boulot.
Qui sont-ils véritablement ? Et la réponse a été « Nous sommes votre futur ». Et là, si vous voulez, avec cette réponse-là, ça m'a interpellée très fortement. Et je me suis dit, on y revient dessus d'ailleurs, en discutant entre nous, de savoir qu'est-ce que la technologie qu'ils ont, parce qu'ils sont très, 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 c'est très poussé, hein, ce qu'ils ont, d'après ce qu'on a vu. Parce qu'à un moment donné, dans la salle où j'étais, j'ai vu qu'il y avait des instruments qui étaient là, avec des lumières, bon, moi je suis informaticienne, je sais ce que c'est quand même un serveur, un ordinateur, etc. Donc là j'ai vu qu'il y avait du matériel technologique très très avancé, et eux ils m'ont répondu, ça sert à travers les enlèvements, enfin ce qu'on vous fait, d'analyser, voilà, comme un laboratoire, quoi, si vous voulez.
En tout cas, souvent, des personnes qui sont témoins soit d'un vaisseau ou de rencontres rapprochées ressortent changées, transformées, avec une conscience accrue de la Terre. Qu'est-ce qu'on fait de la Terre, de l'écologie, parfois un sentiment de honte de ce qu'on fait à la planète. Ça revient assez souvent.
C'est-à-dire que les extraterrestres sont des lanceurs d'alerte ?
Pourquoi pas ? Ouais.
Roswell, la vérité est ailleurs, avec Myriam Belmire, présidente de l'association Cerro France, Isor, responsable des repas ufologiques à Toulouse, Gildas Bourdet, auteur notamment de Roswell, la vérité, aux presses du Châtelet, Vincent Basset, traducteur de La conspiration Roswell de Boy Morrison aux éditions Bragelonne, Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et de contre-culture aux éditions Tana. Léo Ponge, documentariste. Yann Quérault, auteur de L'avenir ne sera plus ce qu'il était, aux éditions Arcueiris. Jean-Paul Agut, directeur du GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et Pierre Lecomte, enquêteur au GEPAN. Extrait des séries Les Envahisseurs et X-Files.
J'ai vu cette soucoupe. C'est la stricte vérité.
Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, prise de son Jean-Louis Deloncle, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarez.